L'archi sociale est mise en place, mais ça va se rebeller, sinon ça serait pas drôle. Beaucoup de tension. Et j'adore, c'est que à la fin de la BD, il y a un cahier graphique, comment le dessinateur a cherché les personnages. Ouais, et surtout, les planches, les premières planches qui sont dessinées, qui sont comparées aux indications du scénariste. Le scénariste, il dit, bah, le personnage arrive, machin, et tout ça. Et en fait, le dessinateur se débrouille et doit dessiner. Et on voit les deux différences. C'est vachement sympa. Arca ou la nouvelle annonce, une pour les amateurs de SF dystopique. Sinon, bah, vous restez au Maroc avec des femmes guettant l'annonce.
C'est parfait. Merci Sébastien et Louise.
Jeu de paume de Léa Louis aux éditions courtes et longues.
Parfait. Sandrine.
Absence selon Camille de Benjamin Fogel chez Rivage Noir.
C'est parfait. Une citation pour terminer, Seb ?
Oui, de Philémon, un personnage né dans Pilote en 56. Oui. Un ami lui dit « Tu as remarqué, Philémon, que ton oncle trouve toujours tout normal. » Philémon dit « Ah ouais, c'est pas normal.
» J'adore. Merci à tous les trois. C'était le dernier chapitre de La Voix est libre pour cette semaine. Merci aussi, bien sûr, à Agnès Vaudin, Boris Paczynski, l'homme aux doigts de fée, Mathieu Fred, son acolyte. Je vous signale en passant que demain, comme tous les jours, de 15h à 16h, vous retrouverez Historiquement Vôtre avec Stéphane Bern. Demain, c'est l'histoire de Lili Bollinger. Dans un instant, le sport avec Jacques Vendroux. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres livres. Salut.
Il est 20h sur Europe 1. Les informations, Brandon Ouarette. Bonsoir Ouarette.
Bonsoir Jacques, bonsoir Brandon. À tous. À la une de l'actualité, une délégation du Hamas se rendra demain en Égypte pour répondre à la récente contre-proposition d'Israël en vue d'une trêve dans les combats et la libération d'otages. Hier, le mouvement islamiste palestinien a diffusé une nouvelle vidéo d'otages israéliens. Elle montre deux hommes de 47 et 64 ans retenus à Gaza. Dans la vidéo, ils s'expriment probablement sous la contrainte et appellent le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou à négocier pour parvenir rapidement à un accord. L'actualité à l'étranger, c'est aussi la guerre en Ukraine. Le commandement en chef de l'armée ukrainienne a affirmé que la situation sur le front s'était détériorée. Les troupes russes remportent des succès tactiques dans plusieurs zones, selon le commandement ukrainien. Hier, les Russes ont lancé une attaque massive de missiles contre les infrastructures énergétiques ukrainiennes. 4 centrales ont été gravement endommagées. En France, de violents incidents ont éclaté hier soir à Givors, près de Lyon. Des groupes de jeunes très mobiles ont semé le chaos dans le centre-ville en allumant des incendies, en tirant des mortiers. 2 voitures de police municipale ont été incendiées. Plus tôt dans la journée, 4 mineurs ont été placés en garde à vue après l'agression d'un autre mineur par 5 jeunes. Lutter toujours plus et toujours mieux, c'est l'objectif du gouvernement. Dans un entretien pour la Tribune dimanche, le garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti a dévoilé un plan choc de lutte contre les gros trafiquants de drogue. Parmi les mesures annoncées, la mise en place d'un parquet national dédié à la lutte contre la criminalité organisée ou la création d'un véritable statut du repenti. Ce nouveau statut ne coûtera pas un centime aux contribuables et sera intégralement financé grâce aux avoirs criminels, annonce du ministre de la Justice. Du sport et du judo, l'équipe de France mixte sacrée championne d'Europe cet après-midi à Zagreb pour la 2e fois de son histoire. Victoire 4-0 face à la Géorgie, tenante du titre. Du sport toujours et du football féminin, demi-finale retour de la Ligue des Champions et direction la finale pour les Lyonnaises. Victoire 2-1 au Parc des Princes contre ses rivales parisiennes. Le 25 mai à Bilbao, l'Olympique Lyonnais retrouvera le FC Barcelone avec en tête un 9e titre européen. Et chez les hommes, suite et fin de la 31e journée de Ligue 1, et Brest est assuré de jouer la Ligue des Champions la saison prochaine. Victoire 5-4 sur la pelouse de Rennes au terme d'un match complètement fou. La 31e journée se conclut ce soir. Lyon reçoit en ce moment Monaco et le match vient de reprendre. Lyon gagne pour l'instant 2-1 face à Monaco et en cas de victoire lyonnaise, les Parisiens remporteront un 12e titre de champion de France de leur histoire. Dans moins d'une heure, c'est Marseille qui accueille Lens.
Europe 1.
Europe 1, 20h03, le studio des légendes avec vous, Jacques Vendroux.
Europe 1.
On est sur le toit du monde, on est sur le toit de l'Olympe.
20h, 21h.
Le studio des légendes.
C'est vrai que j'ai fait une ligne droite époustouflante.
C'est une histoire qui est en train de se raconter, elle n'est pas terminée.
Même si je suis un grand joueur de foot, comme les mômes me le disent, pour ça je suis fier, mais j'ai pas envie de moi de me le dire.
Jacques Vendroux.
Merci Brandon. Merci infiniment d'avoir présenté ce bulletin d'information. Bonsoir, le studio des légendes, 20h, 21h, en direct sur Europe 1, avec Serge Blanco, bien sûr, le top 14, Marie-Alice Yahé, le rugby féminin, le tournoi Destination. 47 sélections en équipe de France et consultante rugby de Canal+. Et en football, il y aura un retour bien sûr sur Paris Saint-Germain-Le Havre hier. Et puis, on présentera le match de mercredi, la demi-finale aller de la Ligue des Champions entre le Borussia Dortmund et le Paris Saint-Germain. Demi-finale aller, bien sûr, extrêmement intéressante et passionnante. Il y aura un debriefing dans quelques secondes sur Rennes-Brest. Marseille-Lens, bien sûr, c'est depuis 19h, on aura le score. Et fil rouge, bien sûr, avec Cédric Chasseur, qui nous fait la grande amitié d'être dans notre émission de 20h à 21h. Et un invité exceptionnel, Sophie Lavaux, alpiniste, la première Française, tenez-vous bien, à avoir gravi les 14 sommets de la planète à plus de 8000 mètres. Interview réalisée. Il est passionnant, cette interview. Il est passionnant et il est réalisé par Axel May et Martin Lange. À tout de suite. Mais on commence par un match de folie. La Ligue 1, passionnante. Rennes contre Brest. Brest qui gagne à Rennes sur le score de 5-4. Un but vainqueur marqué par Lilian Brassier. 96 minutes dans les arrêts de jeu. Donc les deux équipes étaient à égalité. 4 partout, match incroyable. On a regardé ce match ensemble, oui. Cédric. Un match, mais inouï.
On s'ennuie pas en Ligue 1, vous voyez.
Quasiment du jamais vu.
C'est le match le plus prolifique de la saison, mon cher Jacques. C'est 9 buts avec des retournements de situation en pagaille. On va quand même signaler que Rennes avait mené 2-0 au bout de 10 minutes. On pensait les Brestois qui étaient dans une mauvaise période dans ce mois d'avril touchés. Ils reviennent au score assez rapidement, mais mènent 4-2 dans le cœur de la deuxième période. Et puis, tout s'écroule, Rennes revient, 4-3, 4 partout. Et vous l'avez signalé, ce but de Brassier au bout du temps additionnel de la tête qui vient délivrer les Brestois. Brest est assuré ce soir de jouer une Coupe d'Europe la saison prochaine. Eux qui jouaient le maintien, je me souviens d'un match face à Nantes au coup près à 2 ou 3 journées de la fin la saison passée. Ils avaient assuré leur maintien, et bien cette année, ils se qualifient au moins pour une Coupe d'Europe et ils peuvent espérer la Ligue des Champions. Maintenant, ils visent la Ligue des Champions. Et est-ce que vous saviez, mon cher Jacques, que c'était le 36e club français, Brest, à disputer une Coupe d'Europe la saison prochaine? Est-ce que vous êtes capable de me citer le 35e?
Le dernier
nouveau club à avoir disputé une Coupe d'Europe. C'est vraiment quelque chose d'incongru.
D'incongru, je dirais Lille, non?
Non, c'est Châteauroux.
Châteauroux
en 2004-2005.
Qui était présidé à l'époque par Michel Denisot.
Premier tour de Coupe UEFA, c'était la dernière fois qu'on avait un nouveau club français.
Et entraîné par Victor Zvinka.
C'était la dernière fois qu'on avait un nouveau club français en Coupe d'Europe. Eh bien, l'an prochain, ce sera Brest, le 36e club français à faire honneur à la France.
Alors, puisque vous êtes dans le studio du Studio des Légendes, il y a ce match qui a débuté à 19h, entre, bien sûr, vous le savez, l'Olympique Lyonnais et l'AS Monaco, un match qui concerne directement les deux clubs, mais qui concerne aussi indirectement le Paris Saint-Germain. On en est où à 20h07?
Eh bien, c'est la mi-temps et l'Olympique Lyonnais mène 2-1 face à Monaco.
Ça veut dire
que le PSG est pour l'instant officiellement champion de France. On passe de officieux parce qu'il y a 12 points d'écart avec 4 matchs à jouer ou 3 matchs et demi à jouer pour Monaco. 12 points et un goal average très largement en faveur du PSG, donc c'est quasiment fait. Mais là, ce serait officiel. Si Monaco ne gagne pas ce soir, dans les 45 minutes qui restent, eh bien, le Paris Saint-Germain sera champion devant sa télé.
Là, c'est encore la mi-temps.
Le match a démarré avec un petit peu de retard.
Bon, vous nous tenez au courant. On est ensemble jusqu'à 21h. Et on va parler rugby, évidemment. Le top 14, Serge Blanco, bonsoir. On va analyser les résultats de cette 22e journée, grâce à Europe 1, vous avez encore passé près de 12 heures devant votre poste de télévision, c'est ça? Merci Serge.
Bonsoir hein. Monsieur Jacques.
C'est votre épouse qui doit être contente, non?
Voilà, c'est mon épouse. On devait se balader, puis j'ai été obligé de regarder toutes les rencontres de rugby pour faire des résumés ce soir.
Voilà, alors on va commencer par...
Mais bon.
Non mais elle est habituée quand même, elle connaît votre passion pour le rugby. Elle ne doit, ouais, pas, doit pas être surprise quand même.
Vous saurez vous faire pardonner.
Je sais. Donc Serge, 22e journée de ce championnat de top 14. On va commencer bien sûr par le match Toulouse Racing. Toulouse qui s'impose devant le Racing 32-12.
Oui, mais un score tout à fait logique. Même si le Racing venait un petit peu s'essayer pour voir si le reste de la compétition serait peut-être heureuse pour eux. On s'est aperçu que le Racing, en jouant contre le vent, a été mieux inspiré qu'en deuxième mi-temps où le vent poussait dans leur dos. Et cette équipe s'est complètement désunie à partir de la deuxième mi-temps. Alors, il y avait une bonne prestation dans un premier temps, mais après, Les équipes s'étaient fritées et le Stade toulousain reste toujours le Stade toulousain avec un effectif exceptionnel et bien sûr, ils font partie des grands favoris de ce top 14.
Et moi, j'ai vu Perpignan-Montpellier. Perpignan qui gagne à Montpellier 25-20. Pas mal cette équipe de Perpignan. Hein. Il y avait je ne sais pas combien de supporters de Perpignan à Montpellier.
Mais il y avait 5 000 supporters perpignanais à Montpellier. Ben écoutez, c'est un peu l'histoire de Brest. Hein. L'année dernière, ils ont joué le barrage d'accession, en tout cas pour ne pas descendre. Et puis cette équipe aujourd'hui est complètement transformée. Ce soir, à l'heure où on parle, elle est classée 6e, donc elle est dans le top 6 et elle est qualifiée pour les phases finales. C'est une équipe qui a dominé cette équipe de Montpellier et cette équipe de Montpellier, dans un premier temps, joue sa survie en plus. Et ils ont mené assez largement. Et puis cette équipe ne s'est pas désunie de Perpignan et véritablement a mis à mal Montpellier et a mis encore plus de doutes. Donc c'est des situations diamétralement opposées qui sont en train de se mettre en place entre Perpignan et Montpellier. Perpignan, dans les 4 futures journées, risque de jouer la qualification. Et Montpellier va être obligé de défendre chèrement sa peau en top 14 en se basant sur vraisemblablement un barrage à disputer contre un club de Pro D2.
Lyon qui s'impose devant Pau 38-20, on me dit que c'est normal.
Mais c'est paradoxal surtout parce que Lyon, à l'extérieur, ne réussit pas. C'est une équipe qui a des moyens exceptionnels, mais cette équipe se saborde la plupart du temps. Au contraire, il recevait une équipe de Pau qui était classée 6e avant cette journée. Et puis, ces Lyonnais ont vu une opportunité. En mettant en place leur jeu, on les a trouvés dominateurs au niveau des avants. Et on les a vus aussi à l'aise au niveau de leurs trois quarts. Et c'est tout à fait normal que cette équipe de Lyon gagne contre la section paloise. Ils resteront au milieu du tableau et vraisemblablement, ils ne se qualifieront pas pour les phases finales.
Et avant de vous retrouver, Serge Blanco, le studio des légendes, 20h-21h, c'est en direct avec Serge Blanco, vous l'entendez en ce moment. Marie-Alice, Yaé, Alexandre Guingamp, Maxime Hérignoux, Alain Giresse, Sophie Lavaux, la meilleure alpiniste du monde, Martin Lange, Axel May, Cédric Chasseur, réalisation Benoît Le Vieux-Noix, collaboration Hugo Levé. À tout de suite.
20h-21h,
le studio des légendes
sur Europe 1.
Leclerc, bonjour.
Oui, bonjour. Moi, les forfaits mobiles, ça me donne l'impression de passer à la mairie. Tous ces gigas jusqu'à ce que la mort nous sépare, merci bien.
Dis calme, on a la solution. En ce moment, chez Leclerc, le forfait réglo mobile avec 130 gigas et les appels SMS, MMS illimités est à 9,50€ par mois. Et c'est sans engagement.
Sans engagement? Juré?
Mais oui. Le meilleur prix, c'est celui qu'on choisit. Forfait pour des communications intra-France métropolitaine hors numéros spéciaux. Disponible dans les centres Leclerc, conditions de l'offre consultable en magasin et sur réglomobile.fr.
Jérôme Béglé, directeur général de la rédaction de Paris Match.
Pour les 75 ans de Paris Match, nous vous proposons un numéro événement. Les 7 acteurs historiques du Splendide réunis pour un entretien et des photos exclusives. Un reportage exceptionnel avec les gueules cassées de l'armée ukrainienne et les tableaux de Notre-Dame de Paris entièrement restaurés.
Paris Match, numéro spécial anniversaire de 220 pages, en vente 3 semaines.
Europe 1.
On est sur le toit du monde, on est sur le toit de l'Olympe.
20h, 21h.
Le studio des légendes.
C'est vrai que j'ai fait une ligne droite époustouflante.
C'est une histoire qui est en train de se raconter, elle n'est pas terminée.
Même si je suis un grand joueur de foot, comme les mômes me le disent, pour ça je suis fier, mais j'ai pas envie de moi de me le dire.
Jacques Vendroux.
Et on continue le débriefing, comme on dit, du top 14 de rugby. C'est la 22e soirée. On a parlé de Toulouse Racing, Montpellier-Perpignan, Lyon contre Pau. On va évoquer Oyonnax contre Castres. Oyonnax qui bat Castres sur le score de 22-19. Votre analyse, Serge Blanco, consultant rugby Europe 1.
Mais il reste encore une chance à cette équipe d'Oyonnax pour se maintenir en top 14, même si ça sera très difficile. Mais cette équipe a été dominée dans un premier temps. Et puis cette équipe de Castres qui avait une chance de pouvoir aller vers une qualification. Mais c'est sabordé totalement. Et puis on l'a trouvé avec une équipe revancharde comme Oyonnax, et bien une équipe qui a mis à mal cette équipe castraise et qui l'élimine pratiquement du championnat. Et Castres est obligé de regarder comme Oyonnax vers le bas du tableau et doit défendre véritablement et chèrement sa peau maintenant en top 14. C'est une victoire tout à fait logique d'Oyonnax.
Et on va terminer, il y a encore deux matchs. Bayonne qui est battue sur son terrain par Bordeaux-Bègles, 34-15. Votre avis?
Ben écoutez, une équipe bordelaise qui a besoin de se racheter par rapport à sa Coupe d'Europe, et puis qui a des prétentions nationales au niveau du titre en top 14, avec ses internationaux, dont Louis Vielle-Biarré, qui a marqué un très bel essai. Mais cette équipe a tout à fait et normalement gagné à Bayonne. Une équipe qui était invaincue depuis je ne sais plus combien de matchs, une trentaine de matchs. Donc c'est un exploit de la part des Bordelais, mais c'est une équipe qui assoit sa soif de titres et de conquêtes pour le futur. Donc il faudra compter sur Bègles-Bordeaux pour les mois à venir.
Pardon. Et on termine par Clermont qui s'impose devant le Stade français sur le score de 41-18. Je suis surpris. Mais, j'ai le droit ?
Mais oui, vous avez totalement le droit, mon cher Jacques, parce que Clermont était dans une posture très difficile, et puis il y avait la tête tournée vers le bas du tableau, et puis cette équipe du Stade français était l'équipe numéro 1, et toujours l'équipe numéro 1 de ce championnat, et cette équipe a été mise à mal, et a connu une sévère défaite avec des Clermontois qui ont été âpres, qui ont été durs, qui ont été virulents et qui surtout ont amené un jeu de rugby qu'on ne l'aurait pas vu jouer depuis plusieurs mois. C'est une équipe qui mérite totalement sa victoire et c'était, je peux vous le dire, une très très belle victoire, ce qui va permettre aussi au Stade français de se remettre en question et de continuer à voir vers le haut s'ils veulent véritablement aller jusqu'au bout du championnat.
Merci Serge Blanco, j'ai une bonne nouvelle pour vous.
Dites-moi Jacques.
À dimanche prochain, c'est parfait ce que vous faites. C'est parfait.
Bonsoir, Jacques.
C'est parfait ce que vous faites. Vous êtes parfait. Merci Serge, et n'oubliez pas bien sûr La Rochelle, leur Toulon. Voilà, à dimanche Serge. Hein,
c'est... Merci,
prenez vos dispositions. Merci. Le rugby féminin avec le tournoi Destination, l'Angleterre l'emporte et bien sûr gagne ce tournoi des Destinations. On rappelle les résultats, la France a battu l'Irlande 38-17, France bat l'Écosse 15-5, la France bat l'Italie 38-15 et la France bat les Pays de Galles 40 sur le score de 40, donc une équipe 40-0, je crois que c'est 40-0.
J'ai plus le score.
J'ai plus le score, là. J'ai mal noté. En tous les cas, hier, l'Angleterre a battu la France au score de 42-21. Bonsoir, Marie-Alice Yahé, internationale de rugby, capitaine et surtout, consultante rugby du groupe Canal+. Quelle est votre analyse sur ce tournoi 2024? Bonsoir et merci d'être avec nous sur Europe 1.
Bonsoir à tous. Mon analyse, elle est malheureuse entre guillemets parce que j'en ai un peu marre que ce soit en tant que joueuse et maintenant spectatrice de ne jamais gagner contre ces Anglaises et en tout cas de ne pas trouver la solution ou en tout cas même quand on l'a de se saborder ou de la gâcher nos solutions et c'est ça qui m'embête le plus parce que cette équipe elle progresse énormément. Parce que cette équipe, elle est jeune, parce que la Coupe du Monde, l'objectif, c'est la Coupe du Monde de 2025. Donc, on la rajeunit malgré tout, mais on a tellement rajeuni qu'on manque un peu parfois de cadre et d'expérience pour gérer des matchs comme ceux-là. Et du coup, voilà, elles font une mauvaise entame de match parce qu'il faut gérer les émotions d'une possible finale de Grand Chelem à domicile et c'est difficile à gérer, on sait. Et puis derrière, elles font de très belles choses. Elles prônent un jeu qui plaît aux gens. C'est pour ça qu'il y avait aussi tant de monde dans le stade et à leur côté, quelque part, parce qu'elles jouent beaucoup, elles font du mouvement, elles font un rugby qui plaît. Mais malheureusement, parfois, qu'il manque d'équilibre parce qu'à force de trop jouer, parfois, on surjoue et on fait des erreurs. Et justement, il y a eu trop d'indiscipline, il y a eu un manque de puissance par rapport aux Anglaises, un manque d'expérience et d'efficacité. Et ça fait que, au bout du compte, on perd encore contre ces Anglaises, malgré toute l'envie et le caractère de cette équipe de France.
Et je confirme bien sûr mon interrogation tout à l'heure, la France, si j'avais bien noté, a battu le Pays de Galles sur le score de 40-0. Comment l'équipe de France pour le tournoi, allez, on va le dire 2025, peut évoluer? Parce qu'elle est pas mal cette équipe quand même, on ne s'ennuie pas quand on la regarde jouer.
Exactement, elle peut progresser justement en prenant de la maturité, de l'expérience aussi, parce que, bah, comme je le disais, elles sont beaucoup, elles sont très jeunes, même parfois sur des postes clés, comme on a à la charnière, que ce soit, heureusement en demi-mêlée, on a Pauline Bourdon en Suisse, qui elle, pour le coup, a un peu plus d'expérience, mais elle est un petit peu seule au niveau des cadres pour gérer justement un match avec ses temps forts, avec ses temps faibles, avec, par exemple, interdire, entre guillemets, à son arrière, très jeune, de relancer de ses 22 à tel moment du match. Voilà, c'est être capable de ne pas commettre ces erreurs-là qui font qu'elles progresseront. Donc ça, forcément, en enchaînant les matchs, en jouant ensemble régulièrement, elles vont progresser, avoir l'habitude de gérer, gérer ce genre de match-là. Et elles feront beaucoup moins d'erreurs, beaucoup moins d'indiscipline et de petites erreurs qui leur ont coûté cher hier. Par contre, il ne faut rien qu'elles changent dans leur attitude, dans leur engagement et dans leur rugby. Elles l'ont trouvé, ce jeu de mouvement, ce jeu debout qui plaît et qui marque et qui a marqué des essais hier. Maintenant, voilà, elles doivent trouver l'équilibre entre le jeu, le surjeu, être gagner en puissance un petit peu devant parce qu'elles ont souffert face au pack anglais. Mais c'est des petits détails qu'on peut régler largement, en tout cas. Maintenant, il faut qu'elles grandissent encore un peu.
Merci en tous les cas. Merci Marie-Alice Yahé. Merci d'être venue sur Europe 1. Vous revenez quand vous voulez. Hein.
Et à vous,
j'ai adoré votre analyse. Voilà. C'est clair, net et précis. Et nos amis de Canal+ ont bien fait, eh bien, de vous recruter, entre guillemets, eh bien, comme consultante. Je rappelle que vous êtes internationale de rugby et que vous intervenez régulièrement sur Canal. On va parler football, si ça ne vous dérange pas. On a ouvert avec le foot. On a parlé rugby avec... Marie-Alice Yahé et Serge Blanco sur le résultat du top 14. Je voudrais qu'on parle de foot quelques secondes, avant la pub bien sûr, et revenir sur ce match incroyable, mais incroyable, entre l'équipe, vous l'avez dit, entre l'équipe de Rennes et l'équipe de Brest. Brest qui gagne 5-4, c'est quasiment du jamais vu à l'étranger de Guingamp. Allez, vous allez ouvrir la page football.
C'est la saison de tous les possibles, je crois, pour Brest. C'est l'équipe, ce que j'aime au-delà du résultat et de cette qualification qui est historique, il faut le rappeler, première fois qu'ils sont en Coupe d'Europe. C'est dans cette manière d'aborder les matchs et de les gérer. C'est-à-dire qu'à aucun moment, ils ont renoncé à leur manière de jouer. Ils continuent à se projeter à 4, à 5 dans la surface adverse alors qu'ils étaient menés au score parfois de 2 buts. Et c'est ce qui crée des matchs pour nous en tant que spectateurs très fun à regarder, très sympa, parce que sur les derniers matchs, il y a eu 4-5 buts à chaque fois. Et c'est ce qui leur permet aujourd'hui d'être là où ils méritent d'être.
J'ai adoré ce match.
À la troisième place.
C'est formidable.
Ah ouais, c'est formidable et c'est mérité, voilà, sur l'ensemble de la saison.
Alain Giresse. Bonsoir Alain Giresse, comment ça va?
Bonsoir, tout va bien.
Tout va bien.
Je suis encore dans l'euphorie de cette rencontre, voilà. Comme tout le monde. Ah, et bien sûr, évidemment. On peut pas rester indifférent quand on match comme ça, ça fait du bien. Et voilà, c'est extraordinaire. Et puis alors après, évidemment, on ne peut que encore d'être admiratif face à cette équipe de Brest. C'est impressionnant, oui. Cette équipe-là qui fait face à toutes les rencontres, aux situations auxquelles ils sont confrontés et ils arrivent malgré aujourd'hui une situation où ils auraient pu un peu lâcher après que le retour de Rennes. Eh bien non, ils ont toujours été présents et franchement, c'est une saison exceptionnelle. Je ne sais pas si ces joueurs-là se rendent compte de ce qu'ils sont en train de vivre parce que des saisons comme ça, on n'en vit pas toutes les années et j'espère qu'ils vont savoir le savourer et finir, bien finir encore ce championnat. Et puis on voit des joueurs vraiment qui s'affirment, que l'on découvre, qui ont de la qualité, ça joue bien, il y a un état d'esprit, c'est collectif, voilà, vraiment, tout pour faire le bonheur d'un entraîneur et d'un club.
Maxime Mérigny, vous avez 30 secondes.
Alors, on s'était quitté il y a quelques semaines où Brest avait perdu à la dernière seconde à Lyon, on s'en rappelle, dans les derniers instants avec un pénalty. Là, c'est le scénario inverse. Ils sont allés chercher au courage cette victoire dans le derby breton à Rennes. Voilà, ce qui les assure, on l'a déjà dit, d'une place en Europe, alors qu'ils se maintenaient la saison dernière à 3 journées de la fin. C'est tout simplement extraordinaire.
En tous les cas, formidable match entre l'équipe de Brest et l'équipe du Stade Rennais, le studio de légende, 20h-21h. C'est en direct avec Serge Blanco, Marie-Alice Yahé, Alexandre Guingamp, Maxime Mérignoux, Alain Giresse, Sophie Laveau, la meilleure alpiniste du monde, Martin Lange, Axel May, Cédric Chasseur, réalisation Benoît Levionnois, collaboration Hugo Levé. 30 secondes, 20 secondes, Cédric Chasseur. Le résultat pour le moment entre l'Olympique Lyonnais et l'AS Monaco.
59e minute de jeu et ça n'a pas bougé. Lyon mène toujours 2-1 face à Monaco. Le PSG est pour l'instant toujours champion de France.
A tout de suite.
Europe 1.
Nous sommes recordman d'Europe en matière de prélèvement obligatoire. Est-ce qu'on peut continuer sur une pente à la grecque ou est-ce qu'on redresse ce pays?
On tient, on résiste et on assume un principe de laïcité.
Il y avait beaucoup plus d'insouciance, en tout cas il y a 5 ans. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a une peur généralisée.
Si vous êtes condamné à moins de 6 mois de prison, vous n'allez pas en prison. Attendez, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas si grave que ça.
Je vous jure que le temps que je fasse mon lacet, que je relève la tête, j'ai vu le couteau se planter.
On ne peut pas continuer comme ça à exposer nos enfants, la jeunesse, à des formes de violence inouïes.
Un enfant, c'est pas un droit. Quand on le fait, c'est qu'on le veut et qu'on doit l'assumer.
Europe 1.
Leclerc, bonjour.
Oui, bonjour. Je voulais vous remercier pour votre application Mon Leclerc.
C'est gentil, madame.
Ah bah oui, parce qu'entre les applis pour éclater du papier bulle virtuel, celle pour avoir une voix d'alien et celle pour caresser des chats, ah bah ça fait du bien, une appli qui sert enfin à quelque chose.
Toutes nos promos toute l'année, tous vos tickets Leclerc à portée de main et des bons de réduction personnalisés. L'appli Mon Leclerc, elle a tout pour défendre votre pouvoir d'achat. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Offre également consultable sur www.e.leclerc.
Europe 1.
On est sur le toit du monde, on est sur le toit de l'Olympe.
20h, 21h.
Le studio des légendes.
C'est vrai que j'ai fait une ligne droite époustouflante.
C'est une histoire qui est en train de se raconter, elle n'est pas terminée.
Même si je suis un grand joueur de foot, comme les mômes me le disent, pour ça je suis fier, mais j'ai pas envie de moi de me le dire.
Jacques Vendroux.
Et tout de suite, un entretien exceptionnel dans le studio des légendes. Sophie Lavaux, alpiniste et première française à avoir gravi les 14 sommets de la planète à plus de 8000 mètres d'altitude. Elle est au micro, elle est en compagnie d'Axel May et Martin Lange. Écoutez, c'est passionnant. Sophie Lavaux, bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue dans ce studio des légendes. Vous êtes une légende. Pourquoi ? Parce que vous avez grimpé les 14 sommets à plus de 8000 mètres qui existent sur Terre. Il n'y en a que 14. Vous les avez tous faits. Vous êtes la quatrième femme à avoir réussi ça. Le premier et la première française. On va en parler dans un instant. Avec moi, Martin Lange.
Bonjour Axel, bonjour Sophie.
Bonjour.
Bon, c'était le 26 juin 2023 que vous avez réussi cet exploit, parce que c'est un exploit. On va en parler dans un instant, un film qui a été tourné sur vous, qui va être diffusé sur Canal+. Mais déjà, 9 mois après, vous avez réalisé cette performance.
Bah, à force de venir en parler dans les micros, je commence petit à petit à réaliser. Mais c'est pas forcément évident. Petit à petit, oui, j'en prends conscience et je commence finalement à savourer, tout simplement.
Ouais, parce que dans le film, on voit qu'au moment où vous êtes tout en haut et que vous redescendez ensuite, vous dites ouais, j'arrive pas à vous parler en anglais à une de vos camarades norvégiennes, vous dites j'arrive pas à réaliser l'exploit.
Non, puis ça a mis un petit moment avant de. C'est quand même 11 ans de ma vie, donc il faut quand même concrétiser et puis vraiment prendre conscience de que ça se termine.
Bon, avant que vous nous racontiez votre vie, ces performances que vous faites aujourd'hui, je vous propose d'écouter la bande-annonce de ce film tourné par François Damilano, qui est lui-même alpiniste, hein, puisqu'il est monté tout en haut. Il avait déjà tourné des films avec vous. Film qui sera diffusé le 23 mai sur Canal+. Ça s'appelle Le Dernier Sommet.
Mais nous sommes le toit du monde. C'est un truc de dingue, quoi.
C'est magique.
Et avec cet ami accompagnateur, il me dit, ouais, tu sais qu'il n'y a pas de Françaises qui font de la course aux 8000. Et je lui dis, tu sais quoi, je me sens juste pas capable.
Il ne faut pas se tromper, c'est dangereux. C'est putain de dangereux d'aller là-haut. Je pense que c'est très très bien qu'il n'y en ait que 14.
Le Nanga, c'est une montagne difficile. Alors il s'avère que c'est le dernier.
Oh oui, perfect. No wind.
The snow conditions are not good.
J'ai plus peur aujourd'hui que sur ma première expédition en 2012, ça c'est clair.
Le fait de manquer d'oxygène, le corps souffre.
J'ai cette volonté que je veux y aller.
Donc c'est évident que je vais pas arrêter.
It's moving.
Ça va, ceci?
Je sais pas.
Voilà la bande-annonce de ce film de François Damilano, Le Dernier Sommet, qui sera diffusé le 23 mai sur Canal+. Martin, quand on écoute cette bande-annonce, on a envie de voir le film. Hein.
On a tout à fait envie de voir le film. Il y a quelque chose qui m'a frappé dans cette bande-annonce, et vous le répétez à plusieurs reprises, c'est cette notion de danger. On entend au tout début assez putain de dangereux, et après vous dites que vous avez plus peur, lors de cette ascension que lors des précédentes, lors de la première. Pourquoi excusez-moi, je vais regarder mes notes, ce Nanga Parbat au Pakistan qui culmine à 8126 mètres. Pourquoi il fait tant peur et pourquoi c'est le dernier qu'on escalade? Je crois que c'est assez commun pour tous les alpinistes qui se sont attaqués à ces 14 8000. Ils terminent par celui-ci. Pourquoi celui-ci en particulier?
Non, c'est plus le hasard du calendrier qui fait que je me suis retrouvée sur le Nanga Parbat pour le 14e. Je l'ai tenté en 2022 d'ailleurs, où on n'a pas réussi le sommet. Et c'est le choix des montagnes se fait par opportunité des expéditions, des membres d'expé, avec qui et comment. Donc c'est le hasard du calendrier. Et c'est clair que terminer par le Nanga Parbat, c'est pas le cadeau effectivement le plus sympa. C'est une montagne difficile, engagée, dangereuse, mais c'est quand même le lot de tous les 8000 quand même.
Et pourquoi vous dites que vous avez plus peur en 2023 qu'en 2012? C'est de prendre de l'expérience, d'avoir été confronté justement à tous ces dangers?
Oui, c'est ça. En fait, sur toutes ces années, donc il faut comprendre que pour réussir ces 14, donc ça m'a pris donc 11 ans de ma vie, c'est 22 expéditions, hein, donc c'est que ça marche pas à tous les coups. Hein. Et puis, d'ailleurs, j'ai fait un petit calcul, j'ai dormi 3 ans sous tente au-dessus de 5000 mètres. Mais durant toutes ces années, j'ai perdu beaucoup d'amis. Il y a beaucoup de gens qui m'ont entourée et qui sont morts aujourd'hui. Mais je pense que quand on est dans la dynamique de ce challenge, de repartir chaque année pour tenter d'y arriver, on met un petit peu de côté justement cette notion de danger et parce qu'on n'a pas envie, parce que l'envie d'aller grimper est plus forte. Et c'est le fait justement d'avoir terminé avec un vrai succès. Aujourd'hui, j'ai mes 10 doigts, j'ai mes 10 orteils, j'ai pas été blessée, j'ai pas été évacuée. Donc c'est un vrai succès. Et c'est quand même maintenant que je prends vraiment la conscience de cette dangerosité permanente. Quand on est au-dessus de 8000 mètres.
On va continuer à parler dans un instant du danger, mais d'abord, pour ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas toujours au fait de la montagne, quand on dit qu'il y a 14 sommets à plus de 8000 mètres, ce sont avec les points culminants. Il y en a 10 dans la chaîne de l'Himalaya, qui est la plus connue, 4 dans le Karakoram, qui est un peu moins connu du grand public. Ce sont donc ces 14 sommets. Il y a je crois qu'aujourd'hui, on a 40 ou 45 garçons qui ont fait ces 14 sommets, 5 filles seulement, c'est dire à quel point c'est difficile, compliqué, et que ça dépend aussi beaucoup de la météo. Le Nanga Parbat qui est au Pakistan, lui, il a un surnom, c'est la montagne tueuse. Bah, ça dit tout.
Bon, voilà, c'est dit.
on en rit, je sais pas.
Non, alors le vrai surnom, c'est la montagne nue. Mais avec effectivement les accidents qui ont eu lieu sur cette montagne, elle a eu ce deuxième surnom de montagne tueuse. J'ai pas les chiffres en tête, hein, mais je suis pas sûre que ce soit le Nanga qui.
Non, je crois que c'est statistiquement, c'est le troisième massif le plus dangereux.
Oui. Enfin, mais bon, c'est pas les chiffres qu'on va regarder vraiment avant de partir en expédition.
vous êtes franco-suisse. Canadienne, ce qui veut dire que quand vous avez grimpé ce 14e sommet, vous êtes devenu le premier et la première française, toujours confondu, à avoir atteint le sommet. Canadienne également, et suissesse seulement, parce qu'il y avait un Suisse qui avait déjà réussi ça, donc ça vous êtes rentré triplement dans le guide des records.
Oui, et alors, bon, c'est le fait d'avoir effectivement trois passeports.
Par vos parents. Hein, c'est...
Oui, oui. Mais de nouveau, j'ai pas fait ça pour ça. Je veux dire, je suis pas en quête d'un record, je suis pas en quête d'un challenge en tant que tel. J'ai démarré ces expéditions vraiment dans une quête très personnelle. Et d'ailleurs, je l'ai caché longtemps parce que j'étais persuadée que j'étais pas capable. Donc, je faisais ça un petit peu comme ça. Et puis petit à petit, ben un sommet après l'autre. Et puis ça a marché. Puis j'ai réussi ça. Donc, mais j'avais pas en tête de devenir le premier ou c'était pas ça mon moteur.
Parce que Martin, ce qui est intéressant, et je sais que vous allez rebondir là-dessus, c'est encore une fois avant de parler de tous les dangers qu'il y a au-dessus de 8000 mètres, c'est votre parcours de vie, hein, parce que Sophie, donc 2012, premier sommet à 8012 mètres, le Sichapangma, ça c'était en 2012, après il y a donc eu ces 13 autres qui ont suivi, et Martin, voilà, c'est ce parcours de vie qui est assez exceptionnel.
Oui, et puis vous en parliez à l'instant, à quel moment ça a tourné dans votre esprit et vous vous êtes dit je vais faire les 14 8000?
Ouais, c'est en fait c'est un long chemin. C'est vraiment un long chemin. J'ai commencé dans les Alpes, hein, quand même, parce que quand on était gamin, on avait un appartement dans la vallée de Chamonix, donc j'ai quand même évolué en montagne assez jeune et sur des skis notamment. Mais le déclic de l'alpinisme est venu plus tard et à l'époque j'avais un ami qui avait le rêve de faire le Mont Blanc et puis on a fait un pari et puis on a dit tiens on va arriver, on va faire le Mont Blanc et lui il a réalisé son rêve et puis moi ça a vraiment été le facteur déclenchant. J'ai très vite été finalement attirée par vouloir toujours aller un tout petit peu plus haut. Et je travaillais en entreprise, hein, donc
vous êtes dans un hôtel de, je crois que juste avant de vous consacrer exclusivement à l'alpinisme, vous étiez directrice commerciale ou marketing dans un grand hôtel de Genève.
Oui, alors j'ai fait effectivement de l'hôtellerie longtemps. Après, j'ai travaillé dans le luxe. Après, j'ai travaillé dans la finance. Je pense qu'il manque les montres et le chocolat pour faire le top 5 de la Suisse. Mais oui, j'ai une carrière en entreprise et surtout sur mon dernier job où j'ai dirigé une société d'événementiel dans le secteur de la finance avec mon frère. Et donc j'ai parallèlement, comme ça, commencé à vouloir aller un petit peu plus haut. Donc j'organisais mes vacances par rapport au fait d'aller gravir un 5000 mètres, ça a marché, un 6000, ça a marché, 7000 et autres. Et arrive 2008 où il y a la crise économique. Et donc là, notre business model s'est écroulé. Et on a survécu quelques années, puis finalement on a décidé avec mon frère de fermer l'entreprise. Et là, moi je dis mais merci la crise, quoi. Parce que c'est ça qui m'a finalement donné du temps pour pouvoir tenter un 8000 mètres. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que gravir un Mont Blanc, il faut 2 jours, mais gravir un 8000, il faut 2 mois. Donc, quand on est dans une dynamique de travail et autres, c'est difficile de dégager du temps pour partir 2 mois.
Et une préparation très particulière, j'imagine. Il faut racontez-nous justement ces 2 mois et même votre préparation physique et mentale avant de partir dans cette expédition pour gravir un sommet à 8000 mètres.
Oui, c'est clair qu'il vaut mieux être un petit peu préparé, parce que sinon on va pas aller bien haut. Mais de nouveau, cette progression que j'ai choisi de faire, hein, comme ça, je me suis pas réveillée un matin en disant tiens, je vais aller faire l'Everest. Ça a été vraiment très très progressif. Et même la perspective d'aller à 8000 mètres, au départ, je me disais que j'en serais pas capable. Je vais tenter, mais j'étais très très sceptique quant à ma capacité à arriver au sommet. Et puis ça a marché. Et donc j'ai terminé cette quête d'altitude par l'Everest en 2014, où François Damilano m'a accompagnée, parce que je l'ai rencontré sur ma première expédition. Lui, il guidait une petite expédition française, et moi j'étais avec les Suisses. Et il s'avère que le groupe était que suisse-allemand, donc j'en avais ras-le-bol d'entendre suisse-allemand tout le temps, donc j'allais tout le temps voir les Français. Et c'est comme ça que j'ai rencontré François Damilano. Et je ne connaissais pas, mais quand on regarde un petit peu, on comprend tout de suite à qui on a affaire. Et quand je l'ai revu à Chamonix quelques mois après, où je lui ai dit que je voulais aller à l'Everest, c'est lui qui m'a dit, ben, je veux venir avec toi faire un film. Et quand vous avez François Damilano qui vous dit ça, vous dites « Ah ouais, ok, bah avec grand, grand plaisir ». Et donc, c'est le premier film qu'on a fait ensemble sur les pentes de l'Everest, sur le versant tibétain, en 2014. Et je pense que le déclic des 14 est venu, donc pour répondre à la question, est venu justement au sommet de l'Everest.
Qui était votre troisième sommet déjà, hein,
voilà.
À plus du 1000.
Oui, avec cette... Mais cet accomplissement d'avoir de cette quête d'altitude, on peut pas aller plus haut, c'est le toit du monde. Et puis là, je me suis dit non, mais j'ai pas envie d'arrêter du tout, quoi. J'aime ce monde de l'expédition et autres. Et c'est à partir de là où je me suis dit, bah tiens, est-ce que peut-être que si je tentais ce Graal, ce rêve un peu dingue de gravir les 14.
Le studio des légendes, 20h-21h, c'est en direct avec Serge Blanco, Maria Liciae, Alexandre Guingamp, Maxime Hérignoux, Alain Giresse, Sophie Lavaux, la meilleure alpiniste du monde que vous êtes en train d'entendre actuellement, Martin Lange, Axel May, Cédric Chasseur, réalisation Benoît Levionnois, collaboration Hugo Levé. Il est 20h39 sur Europe 1, le studio des légendes. Suite de cet entretien avec Sophie Lavaux, alpiniste, dans quelques instants. À tout de suite, elle est avec Axel May et Martin Lange. Je le répète, c'est passionnant.
Europe 1 Matin, Dimitri Pavlenko.
Bon réveil avec Europe 1, au programme ce matin.
Bienvenue et bonjour Gérard Larcher.
Bonjour Sonia Mabrouk.
Et merci de votre présence.
C'est le son qui a marqué l'actualité cette nuit. Au moins 3 explosions comme celle-ci entendues dans le centre de l'Iran.
La question de l'autorité est posée depuis si longtemps qu'il est largement temps de passer des intentions aux actes.
Les faits, c'est quoi? C'est une jeune fille qui ment, qui dit qu'elle a été agressée, qu'elle a été violentée par un enseignant, donc clairement qui lui met une cible dans le dos.
La violence, la faute à qui? Aux parents, oui, débordés ou qui laissent faire.
2 387 000 à écouter Europe 1 tous les jours. Merci, encore merci de votre fidélité. À demain matin, 7h-9h sur Europe 1.
Leclerc, bonjour.
Oui, bonjour. Moi, les forfaits mobiles, ça me donne l'impression de passer à la mairie. Tous ces gigas jusqu'à ce que la mort nous sépare, merci bien.
Dis calme, on a la solution. En ce moment, chez Leclerc, le forfait réglo mobile avec 130 gigas et les appels SMS, MMS illimités est à 9,50€ par mois. Et c'est sans engagement.
Sans engagement? Juré?
Mais oui. Le meilleur prix, c'est celui qu'on choisit. Forfait pour des communications intra-France métropolitaine hors numéros spéciaux. Disponible dans les centres Leclerc, conditions de l'offre consultable en magasin et sur réglomobile.fr.
Europe 1.
On est sur le toit du monde? On est sur le toit de l'Olympe?
20h, 21h.
Le studio des légendes.
C'est vrai que j'ai fait une ligne droite époustouflante.
C'est une histoire qui est en train de se raconter, elle n'est pas terminée.
Même si je suis un grand joueur de foot, comme les mômes me le disent, pour ça je suis fier, mais j'ai pas envie de me le dire.
Jacques Vendroux.
Le studio des légendes, Lyon-Monaco, ça se déroule en ce moment. C'est important pour Lyon, c'est important pour Monaco et c'est surtout important pour le Paris Saint-Germain. Cédric Chasseur.
2 buts partout désormais. Wissam Ben Yedder a égalisé il y a 10 minutes maintenant. On joue la 76e minute et je peux vous dire qu'il y a des occasions des deux côtés. Donc c'est pas encore terminé.
Et pour le moment, le PSG est champion. Hein.
Toujours.
Au moment où on parle, le studio des légendes, il est 20h40, suite de l'entretien avec Sophie Lavaux, alpiniste et la première française à avoir gravi les 14 sommets à plus de 8000 mètres. Elle est au micro de Martin Lange et Axel May.
La première femme à avoir réussi les 14, c'est Gerlinde Kaltenbrunner, qui est autrichienne. C'était il n'y a pas si longtemps, hein, c'était il y a une vingtaine d'années seulement.
Alors c'est Edurne Passavane.
Ah oui, pardon, exactement.
Qui a réussi, qui est espagnole.
Oui, l'espagnole, elles étaient à la lutte, je crois, c'est ça
Ouais, il y a eu une petite compétition entre Edurne. Alors Gerlinde est la première femme à réussir les 14 sommets sans oxygène.
Voilà, sans assistance respiratoire. Voilà. Et c'est parce que, justement, c'est pour ça que j'avais noté ça. Vous faites ce qu'on appelle du ski, du l'alpinisme. Du style expédition. C'est-à-dire que vous êtes plusieurs. Il y a des Sherpas. D'ailleurs, dans la bande-annonce du film, on entend une voix masculine qui parle en anglais. C'est le Sherpa avec qui vous avez fait 6 ou 7 ascensions de plus de 8000 mètres. Et il y a du matériel. Vous avez recours quand il faut à l'oxygène par opposition à ce qu'on appelle le style alpin où on part le plus léger possible. Il y a des débats entre qu'est-ce qui est mieux. Je ne vais pas vous poser la question là-dessus, puisque vous, ce qui est intéressant, encore une fois, c'est d'avoir gravi ces 14 sommets. Le fait d'avoir été la quatrième femme. À titre personnel aussi, on dit c'est quand même pas si mal.
Oui, comme je disais tout à l'heure, en fait, c'est quelque chose que je prends conscience petit à petit et que je savoure finalement, tout simplement. Mais de nouveau, c'était pas mon challenge. C'était pas cette course au record. Mais effectivement, moi, j'ai gravi ces sommets dans un style d'himalayisme traditionnel. On va appeler ça comme ça. J'ai gravi certains sommets sans oxygène aussi, et Dawa Sangye Sherpa, avec qui j'ai fait quand même 12 expéditions et réussi 7 sommets, fait partie intégrante de la réussite de ces 14. Pour moi, c'est vraiment des réussites d'équipe. Je suis pas toute seule sur ces montagnes, donc je pense qu'il faut faire honneur aussi aux gens qui m'entourent, que ce soit Yann, qui est mon météorologue qui est à Chamonix, que ce soit le cuisinier au camp de base qui nous fait bien à manger, parce que s'il fait pas bien à manger, je pense qu'il y a personne qui arrive au sommet, etc. Les porteurs qui nous amènent toute la logistique au camp de base, enfin toute cette organisation qu'il y a sur ces grandes montagnes, cette vie sur les camps de base et tout, fait vraiment partie de la réussite. Et évidemment, il ne faut pas oublier les sponsors, les partenaires, les gens qui me font confiance et qui ont mis de l'argent pour me permettre de réussir tout ça.
Juste pour mieux connaître ce milieu, une expédition comme celle que vous avez faite, vous êtes combien à monter alors dans chaque camp de base et au sommet finalement?
Alors ça dépend. Il y a en fait on se regroupe avec plusieurs membres d'expédition sur un même permis. Hein, donc, faut comprendre qu'en Himalaya, les montagnes sont régulées. C'est pas comme dans les Alpes où demain, vous, si vous voulez aller faire le Mont Blanc, vous y allez. Puis donc, les montagnes sont régulées. Donc, il faut faire des demandes de permis. Il y a des autorisations. Donc, il y a des officiers de liaison qui sont rattachés à chaque expédition au camp de base. Donc c'est vraiment une organisation qui fait que ça coûte de l'argent. Et l'idée, c'est effectivement de se coaliser avec plusieurs grimpeurs pour pouvoir mutualiser les coûts sur les camps de base. Et donc avoir une cuisine commune, une tente-messe commune, etc. Et après, sur la montagne, la particularité quand même, c'est que une fois que l'itinéraire est ouvert, hein, très souvent par une équipe de tête de Sherpa qui vont aussi sécuriser les parties techniques. Il y a souvent entre 3 et 4 camps d'altitude, donc qui délimitent les paliers qu'il faut faire sur la montagne. Après, on évolue en binôme, donc c'est un grimpeur, un Sherpa. Ça, c'est en moyenne, c'est comme ça que ça se passe. Donc avec Sangye, avec j'ai vraiment beaucoup beaucoup d'expérience et partagée, on décide nous-mêmes de notre stratégie.
Sophie Laveau, himalayiste, qui a réussi les 14 sommets les plus hauts du monde et qui est donc une légende. C'est pour ça qu'elle est dans le studio des légendes ce soir. Ce que vous disiez aussi là, ce qu'il faut comprendre à travers vos propos, c'est le coût financier de ces opérations. Quand on n'est pas dans le milieu ici du Serra, et j'imagine qu'au début c'est un peu un saut dans le vide de se dire va falloir que je monte moi-même mon opération. Quand on reste 2 mois là, sur un camp de base parce que la météo est mauvaise, on doit se dire aussi oula, ça commence à me coûter cher, non?
Non, parce que c'est pas le temps, c'est une expédition, c'est un coût global. Après le temps qu'on y passe, s'il y a une bonne fenêtre météo qui fait qu'on redescend un peu plus tôt ou autre, ça va pas influer sur le.
Et aujourd'hui, vous arrivez à vivre uniquement de l'alpinisme, alors vous donnez des conférences aussi, hein? Mais...
Oui, alors vivre, c'est bien. Très modestement, oui, mais c'est en fait j'y consacre mon temps, c'est un plein temps, quoi. Donc j'ai démissionné du dernier job que j'avais en 2015 pour me dire bon, ok, je vais essayer de de gravir ces 14. Et donc, effectivement, donc, il y a une combinaison entre l'apport des sponsors et les conférences. Que je fais beaucoup, oui.
Sophie Lavaux, juste vous, donc c'est 11 ans pour gravir les 14 sommets, et puis juste après vous, il y a une Norvégienne, Christine Arila, avec qui vous avez partagé deux grimpettes, qui a mis ses 92 jours, je crois, si ma mémoire est exacte, pour gravir les 14 sommets, donc on n'est pas dans la même logique sportive, et justement, et après ensuite avec Martin, on va voir aussi tous les dangers qu'il y a dans cette montagne. Et moi, ce qui m'a frappé dans votre film, c'est que, bah voilà, on vous voit souffrir, on vous voit, alors qu'on voit Christine justement qui trace là, tout droit, on a l'impression que rien ne l'arrête. Bah vous, on vous remet en question, on a l'impression même que vous, parfois vous n'allez pas y arriver, quoi. Ça donne presque l'impression que n'importe qui peut faire ça, ce qui n'est pas du tout le cas.
Peu importe la méthode. J'ai envie de dire, je pense que ces grands sommets, c'est entre autres, hein, mais je pense qu'on a beaucoup d'enseignements à gravir ces grandes montagnes, mais c'est une vraie école du renoncement. Et je pense que renoncer en fonction du contexte, parce qu'évidemment, chaque ascension, chaque expédition est unique. Et sur une saison, ça va être presque facile, parce que les conditions, c'est idéal, les conditions de neige, la météo parfaite, il n'y a pas de vent, etc. Enfin bon. Et puis, la saison d'après, on va avoir, on est très tributaire de la météo, donc ça va être juste l'enfer et ça ne va pas passer. Donc, il y a un facteur chance. Quand Christine réalise cet exploit en 3 mois, elle a eu des saisons de... Alors, bien sûr qu'elle a une capacité physique hors norme, totalement hors norme. Elle a décidé qu'elle voulait battre le record de Nims Dyke, qui avait réussi ça en 6 mois. Donc là, on est en train de changer les codes, complètement. Mais il y a une grosse, grosse logistique autour. C'est une approche, et c'est une philosophie d'ascension qui est complètement différente. Et c'est vrai que moi, j'aime bien prendre mon temps.
Et pour revenir sur Christine Arila, je lisais une interview d'elle juste avant de rentrer en studio, où elle expliquait que son exploit, c'était aussi pour sensibiliser au fait que le monde de l'alpinisme était encore très masculin. On l'a dit, vous n'êtes que 4 femmes à avoir réussi cet exploit. Est-ce que vous aussi, c'est dans un coin de votre tête de montrer qu'en tant que femme, on peut réaliser ce genre d'exploit ?
Oui, c'est important de souligner ça. Je pense qu'au début, donc, il y a une dizaine d'années, en général, j'étais la seule femme sur les expés. Et je dis souvent en entreprise, l'himalayisme, c'est un peu comme la hiérarchie dans les entreprises. Plus on monte et moins il y a de femmes. Donc c'est un truc qui est un peu nécessaire à rééquilibrer. Mais c'est gentiment en train de changer. Et c'est vrai que mon rôle d'ambassadrice, par exemple pour l'ONG Terre des Hommes que je représente, qui est de l'aide à l'enfance, mais qui est effectivement aussi de l'aide aux femmes, fait que par cette expérience et mon aventure, si ça peut inspirer les femmes en général, je donne toujours ce message de oser. Je pense que les femmes, elles se mettent beaucoup plus de barrières d'une façon générale, et il faut oser, et parce qu'on est capable. Donc voilà, si cette expérience peut inspirer les femmes, ben je serais contente.
Malgré le danger que ça représente, on va terminer cette interview avec l'aspect dangereux quand même de ces montées au-delà de 8000 mètres. On va pas faire. Enfin, si dans le film, François Damilano rappelle tous les Français qui sont décédés. Il y en a un qui parle peut-être davantage au grand public que les autres. C'est Jean-Christophe Lafaille, décédé sur les pentes du Makalu. C'était le 11e 8000 mètres qu'il gravissait en 2006. C'est donc extrêmement dangereux. Il y a quoi? Il y a moins d'oxygène, il y a les conditions météo, le fait qu'on puisse pas être secouru lorsqu'on est au-delà de 8000 et même au-delà de 7000, vous êtes tout seul s'il arrive un accident.
C'est pas pour rien qu'on appelle toute la zone au-dessus de 8000 mètres la zone de mort. On n'est pas en capacité de survivre là-haut. Donc c'est aussi simple que ça. Donc on fait des petites incursions du dernier camp jusqu'au sommet et on essaie de redescendre le plus vite. Je mets des gros guillemets parce que l'hypoxie, qui est vraiment la spécificité de la très très haute altitude, hein, l'hypoxie c'est le manque d'oxygène qui altère vraiment la réflexion, qui altère complètement le fonctionnement du corps, rend donc ces ascensions extrêmement difficiles. Et en plus, donc, on n'a pas la capacité effectivement de secourir quelqu'un. Donc quelqu'un qui flanche ou qui s'arrête pour se reposer, qui somnole et qui s'endort, va jamais se réveiller. Et on n'aura pas la capacité de l'aider à redescendre. Donc c'est ça qui fait l'extrême, ouais. Et c'est ça qui finalement rend la particularité donc de ces ascensions qui sont très très différentes des Alpes.
Et après avoir réussi ça, Sophie Lavaux, les 14 sommets à plus de 8000 mètres, quel est votre prochain défi?
Ah, je vais aller à la plage. Non. En fait, je vais. Alors, avec les quelques mois de recul là, du mois de donc c'est le 26 juin 2023, c'est encore récent. C'est assez clair dans ma tête justement que je vais arrêter d'aller à 8000 mètres. Mais c'est assez clair que je ne vais pas arrêter de grimper. Donc, c'est vrai que j'ai remis déjà en route un projet là, que je suis en train d'essayer de terminer sur cette année, qui est un projet que j'avais commencé avant les 14, qui est donc ce qu'on appelle le Challenge des Seven Summits, qui est donc l'ascension des points culminants de chaque continent. Donc, j'étais en Antarctique au mois de janvier, je vais aller en Amérique du Nord, en Alaska, sur le Denali, le mois prochain, etc. Donc, je vais essayer de finir ça. J'ai plein d'autres projets. Je vais retourner en... Bon, j'étais au Népal hein, la semaine dernière encore, donc je vais pas arrêter. C'est un peu ma deuxième maison quand même. Je pense qu'il me faudrait 10 vies pour faire tout ce que j'ai envie de faire. Donc, on va reprendre un projet après l'autre et puis profiter.
En tout cas, j'espère, si vous nous avez écouté ce soir, que ça vous a donné envie de découvrir le film de Sophie Lavaux avec François Damilano, le dernier sommet. Merci, Martin Lange. Diffusion le 23 Sophie. Mai sur Canal+. Et puis, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Quand c'est un navigateur, on dit bon vent. Quand c'est un alpiniste, qu'est-ce qu'on dit?
Rentre à la maison.
Voilà, ça sera le mot de la fin. Merci Sophie Lavaux, invitée ce soir du Studio des Légendes.
Europe 1, le Studio des Légendes, Jacques Vendroux.
Merci. Vraiment exceptionnel, cette interview qui a été réalisée de Sophie Lavaux par Axel May et Martin Lange. En tous les cas, c'est une femme fantastique. En tous les cas, elle a réussi des exploits vraiment hallucinants. Bravo, et on lui souhaite bonne chance, bien sûr, pour la suite, entre guillemets, de ses aventures. On revient à l'actualité. Lyon-Monaco, c'est décisif pour Lyon, pour Monaco, et surtout pour le Paris Saint-Germain, Cédric Chasseur.
Ça a bougé, mon cher Jacques, avec un but lyonnais de Fofana à la 82e minute, qui permet à Lyon de mener 3-2 désormais. Le Paris Saint-Germain se rapproche de plus en plus du 12e titre de champion de son histoire. On est dans le temps additionnel de ce Lyon-Monaco. Il reste encore 2 minutes 30 à jouer, donc a priori ça semble compliqué pour Monaco. On rappelle que Monaco doit absolument gagner pour priver officiellement du titre le Paris Saint-Germain. Officieusement, le PSG, quoi qu'il arrive, était presque quasi champion déjà avant le match, mais officiellement, dans 2 minutes maintenant, le Paris Saint-Germain sera champion de France, normalement, si tout se passe bien pour Lyon face à Monaco.
Et avant de retrouver Brandon Ouarette pour le journal de 21h, je voudrais vous dire que le Studio des Légendes est bientôt terminé. 20h-21h, c'est en direct avec Serge Blanco, Marie-Alice Yahé, Alexandre Guingamp, Maxime Hérignou, Alain Giresse, Sophie Lavaux, la meilleure alpiniste du monde. Vous l'avez entendu, Martin Lange, Axel May, Cédric Chasseur, réalisation Benoît Levieux-Noy, collaboration Hugo Levé, à suivre sur Europe 1 et Joe, votre émission musicale présentée par Joe Hume. Rendez-vous dès demain de 19h à 21h pour Europe 1 Soir, nouvelle formule présentée par Pierre de Villeneuve, à qui nous souhaitons bien sûr tout le bonheur. Deux heures d'actualité pour préciser, décrypter et débattre de l'information de la journée avec des invités et les grandes voix, bien sûr, d'Europe 1. Europe 1 soir, 19h-21h, présenté par Pierre de Villeneuve, dès demain sur Europe 1. Bonne soirée à l'écoute d'Europe 1. Europe 1, vous le savez, je vous le répète, le vendredi, le samedi, le dimanche, Europe 1, c'est une très très grande famille. À bientôt.
Yeah, yeah. Merci ma maman chérie, merci maman, merci. C'est comme ça que je te remercie, je t'aime ma maman, merci.
Menu King Junior, 4 euros, un jour vos enfants vous remercieront. Et en ce moment, 3